d'Italie. En français ?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle Usciadette, tanto per fare, contenti di veder de cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura. Felici correvamo in via Chadelle, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dall'eco ammirate la testa.
Bonsoir, bonsoir a tutte e a tous. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur les 106.3 FM. Alors ce soir, c'est une soirée un peu spéciale parce que moi, Daniela et Veronica... Non mais j'allais justement dire qu'on a la chance d'avoir avec nous plusieurs amis venus directement d'Italie. Ce sont les amis du mouvement Notav et avec lesquels... Bon, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Déjà. Donc on aura la possibilité, la chance de parler avec eux. Donc alors, comme ça, on a déjà introduit un peu les
invités, ouais.
Voilà, et les invités. En fait, donc on va parler du projet donc de nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, qui est justement TAV en italien. Ce projet, pensé depuis 1994, prévoit de creuser le plus long tunnel d'Europe. Il s'agit donc de 57 km dans une montagne contenant des roches qui sont riches en amiante et en uranium. Donc, ce projet lancé en 2001 devrait être achevé vers 2023 et coûter la modique somme de 25 milliards d'euros. Donc, depuis quelques mois...
En plus, c'est un coût estimé. On ne sait pas. C'est un coût estimé, 25 milliards
d'euros. Oui, voilà. Donc, on sait très bien comment ça va se passer.
Exact.
Donc, depuis quelques mois, le projet Lyon-Turin connaît une véritable accélération. Et en Italie, grâce à une occupation quasi militaire du site de la Maddalena à Chiomonte, dans le Piémont, les travaux de la première descente du Treno Alta Velocità, donc TAV, se poursuivent depuis le mois de juin 2011.
Et qu'est-ce qui se passe du côté français?
Du côté français, un comité interministériel a validé les tracés de la ligne grande vitesse le 3 août 2011, ce qui a autorisé l'ouverture d'une enquête publique en janvier 2012. Enfin, au niveau européen, un accord de financement a été signé le 20 décembre dernier, permettant d'envisager le début de la construction du tunnel transalpin en 2013. L'année 2012 sera donc décisive. Si rien ne vient entraver les très puissants lobbies du Lyon-Turin, les chantiers se mettront effectivement en route. Et pourtant, l'évolution des transports transalpins met chaque jour davantage en évidence l'absurdité de ces projets, qui étaient à l'origine destinés à faire face aux prévisions de très forte croissance des transports transalpins à l'horizon du milieu du XXIe siècle.
Oui, en fait, là, je voulais vous donner quelques données, même si c'est un peu peut-être ennuyeux à écouter. Je pense que c'est important quand même de le faire. Donc, la réalité des faits montre une évolution bien différente. Selon Alpifret, le très officiel observatoire des trafics marchandises transalpins, le transport total des marchandises à travers les Alpes a baissé en France du 20,7% entre 1999 et 2009. Par ailleurs, cette baisse frappe surtout les transports ferroviaires. Résultat par lui-même, entre 1999 et 2009, le fret ferroviaire dans les Alpes françaises a diminué de 72,8%.
Oui, donc il s'agit d'un pourcentage
énorme. Le résultat donc est très simple. En 1999, lorsque le gouvernement français et italien ont signé l'accord de création du Lyon-Turin, le tunnel du Mont-Cenis a accueillit un trafic de 9 millions de tonnes de marchandises. Prévoyant que ce chiffre atteindrait le 40 millions de tonnes à l'horizon de 2040, les pouvoirs publics avaient projeté de construire une ligne mixte capable d'accueillir un TGV, mais aussi une autoroute ferroviaire destinée à accueillir l'essentiel du trafic ferroviaire transalpin. Cela imposait la création d'une ligne nouvelle, puisque l'actuelle ligne ne peut supporter plus de 18 millions de tonnes annuelles. Cette analyse est désormais totalement dépassée. Les derniers chiffres publiés montrent que le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis ne voit plus passer que 2,2 millions de tonnes de marchandises et ne fonctionne donc guère au 15% de ses capacités.
Oui, donc si en effet, si en France la mobilisation contre ces projets n'a jamais vraiment pris, même si les choses sont en train de changer, et on le verra d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. En Italie, depuis plus de 20 ans, le projet TAV, donc Treno Alta Velocità, se heurte à une résistance déterminée de tous les habitants de la Val di Susa, dans les Piémont. Donc ce mouvement s'oppose à cette œuvre inutile et nuisible au territoire. Son histoire, c'est un peu celle d'un petit groupe d'irréductibles qui, grâce à son entêtement et à la force de ses idées, devient toujours plus grand et décide de mettre en échec les plans de gouvernement consacrés à la spéculation financière qui sont totalement myopes envers les exigences des populations. Donc c'est pour mieux comprendre l'histoire de Notav que nous avons demandé à Nicoletta Dosio, une militante de longue date de Notav, de nous aider à retracer un peu l'histoire de ce mouvement populaire. On l'écoute.
Io la prima domanda che ti volevo fare è proprio
en premier, je voudrais te demander de nous raconter comment le mouvement NOTAV est né en Italie.
Allora, è davvero una lunga storia che parte dalla fine degli
C'est une longue histoire qui débute à la fin des années 80. La Val Susa, en particulier, a été le point de départ du mouvement NOTAV. Ça a été une lutte qui s'est développée en même temps que celle de la défense du chemin de fer en tant que service public. Car entre la fin des années 80 et le début des années 90, le parcours des privatisations du chemin de fer public a commencé. Et il s'est transformé en société par action. Et donc, formellement, ça a continué à s'appeler Ferrovie dello Stato, chemin de fer national. Mais dans la réalité, il était géré comme s'il s'agissait d'une entreprise privée. Tout cela faisait partie d'un plan de réorganisation du chemin de fer qui s'appelait Piano Necci, du nom du théoricien de ce système. Les plans Necci prévoyaient la transformation des contrats de travail des chemins de fer en des contrats privés et surtout prévoyaient la restructuration du service ferroviaire italien. Dans ces plans, on disait très carrément que 11 000 km des 16 000 qui constituaient le réseau ferroviaire italien
tra le varie realtà territoriali,
c'est-à-dire ce qui liait les différentes réalités du territoire, comme par exemple les trains qui effectuaient des services de navette.
Per quanto significa proprio il
devait donc soit être supprimé, soit être géré directement par les régions, si elles avaient les moyens pour le faire fonctionner. De l'autre côté, ces plans développaient 5 000 km pour la grande vitesse. Cela concernait la Val Susa aussi. Car en fait, il faut rappeler que la Val Susa, ce n'est pas coupé des transports ferroviaires. Nous avons des liaisons ferroviaires internationales qui continuent à fonctionner et qui ont même été améliorées avec la restructuration du tunnel du Fréjus.
Il tunnel d'accesso alla Francia, che è il tunnel ferroviario del Fréjus.
Il s'agit d'un chemin de fer qui est bien équipé, soit pour les passagers que pour les transports de marchandises, et sur lequel passent chaque jour trois couples de TGV, les trains à grande vitesse.
Per cui è chiaro che i contatti.
Il est clair que les liaisons avec la France existaient déjà et elles étaient suffisantes pour combler les besoins réels.
Efficiente e più che sufficiente per quelli che erano i bisogni reali. Allora, il centro di tutto questo sistema era appunto
le pôle central de ce système était le pôle ferroviaire de Bussaleno, dans lequel pendant les années 80 travaillaient environ 1000 cheminots. Il avait une usine ferroviaire ainsi qu'une école pour devenir conducteur, qui était très important car elle accueillait les conducteurs de toute l'Italie qui venaient fréquenter ses cours.
Presso il polo ferroviario di Bussoleno. E poi c'era un grosso deposito locomotive.
Il y avait de même un grand garage pour les locomotives, car à Bussoleno on attachait la deuxième locomotive pour effectuer les transports vers la montagne.
Questo era un elemento essenziale anche proprio dal punto di vista.
Tout cela était essentiel pour la Valsusa, pour les services qu'il fournissait, mais aussi pour ce qui concerne le travail. Le plan Necci a éliminé tout cela. En premier, ils ont fermé l'usine ferroviaire, qui était très efficace et spécialisée. Cela a amené à une diminution des postes de travail et en conséquence à une lutte contre tout cela. Notre lutte visait à la tutelle du pôle ferroviaire du Bussoleno, mais aussi des autres réalités qui existaient en Italie.
Et
s'est placé contre la grande vitesse.
Come ricordavo prima, nel piano Necci era chiaro che la partenza del progetto.
Car dans le plan Necci était évident que le départ du projet de la grande vitesse représentait l'autre côté de la réduction des services et des postes de travail dans les chemins de fer publics.
Quindi siamo partiti proprio a inizio anni 90.
C'est donc au début des années 90 que la Valsusa a donc commencé sa lutte, cette lutte qui concernait non seulement la population de Bussoleno et de la vallée. Pour nous, était déjà clair que la construction de la grande vitesse, son modèle, ça n'avait aucune finalité sociale ni d'efficacité ferroviaire. Car, comme je disais tout à l'heure, le chemin de fer existait déjà et il était suffisant pour combler les besoins réels des personnes, mais aussi le transport des marchandises.
E sicuramente invece aveva delle finalità per i grandi interessi.
Sa finalità était donc liée aux intérêts économiques qui les grandes œuvres amènent et qui ne tient pas compte des besoins réels des habitants et du territoire.
Il loro potere contro quelli che sono poi gli interessi reali delle popolazioni e soprattutto dei territori. Perché ormai questo progetto ad alta velocità.
Ce projet sur la grande vitesse poursuit et des liaisons ferroviaires à grande vitesse ont été bâties.
Per esempio la Torino-Milano.
Je pense à la liaison Turin-Milan, Bologne-Florence, qui passe par la vallée du Mugello et qui a créé des dégâts environnementaux et d'énormes dépenses d'argent public.
Ambientali a taglio di falde di acquifere e a sprechi enormi anche di denaro pubblico.
Ces liaisons ferroviaires non seulement ont détruit les territoires, mais ils ont aussi un coût énorme qui ne peut pas être soutenu par les passagers communs.
Perché tra l'altro queste linee ad alta velocità non soltanto sono venute a distruggere i territori, ma anche hanno un costo veramente enorme e quindi non abbordabile ai passeggeri comuni. Allora, che cosa hanno fatto le ferrovie, le ex ferrovie dello Stato? Proprio per far funzionare.
L'ancien chemin de fer national, pour obliger les passagers à utiliser ces trains.
Questi treni ad alta velocità, che in Italia si chiamano la freccia rossa, la freccia bianca.
Ces trains à grande vitesse, qui s'appelle freccia rossa, freccia bianca, freccia d'argento, a donc supprimé les trains interrégionaux qui circulaient sur les rails normaux.
Che circolavano sulle linee normali, ripeto, erano 11.000 chilometri di linee.
Il s'agissait d'11 000 km. Il fonctionnait parfaitement et répondait aux nécessités des territoires et des gens avec des prix abordables.
Per cui, tanto per fare un esempio, se da Torino a Roma.
Donc, pour donner un exemple, si les billets aller-retour Turin-Rome voyageant sur un train interrégional coûtaient 80 euros, maintenant, ces trains étant supprimés, le plan Necci a bien été mis en place. Pour aller à Rome, on est obligé d'utiliser les trains à grande vitesse, qui coûtent le double. 98 euros l'aller plus 98 euros le retour.
Costava il viaggiare sulla linea normale, quindi non più 40 euro andata e 40 ritorno, ma 98 euro andata e 98 euro ritorno.
Cela veut dire des dépenses plus importantes pour les citoyens et de plus, cela empêche de voyager à ceux qui ne peuvent pas dépenser des sommes pareilles. Ce système de transport qui à la base devait être un support pour voyager plus aisément et de façon plus rapide, en réalité est devenu un système de transport classiste qui est utilisé par une minorité au détriment de tous les autres.
Più che mai un sistema di trasporto classista che serve a qualcuno a danno di tutti.
De plus, en ce qui concerne les réseaux ferroviaires italiens, il faut considérer que des travaux seraient nécessaires. Mais il faudrait aussi doubler des lignes ferroviaires qui sont à rail unique. Plus de la moitié du réseau ferroviaire italien est à rail unique et il utilise des locomoteurs diesel qui est polluant.
E quasi la metà della rete ferroviaria italiana viaggia ancora su locomotori diesel, quindi inquinanti.
Ça n'existe pas encore un système s'alimentant exclusivement en électricité. Même ceux qui soutiennent la grande vitesse car ça permettrait d'avoir plus de postes de travail pour la réaliser sont en train de raconter d'énormes mensonges. On aurait suffisamment de postes de travail si on décidait d'aménager ceux qui déjà existent et pour doubler les lignes ferroviaires qui en ont besoin.
Che necessitano di essere raddoppiate, cosa che non succede mai proprio perché
cela ne va jamais se passer car l'argent public qui devrait être utilisé pour rendre le réseau ferroviaire plus efficace est utilisé pour la grande vitesse.
Et in seguito a questa lotta allora
quelle a été la suite de ce mouvement, de cette lutte qui a commencé au début des années 90?
Allora, non tutti sapevano neanche in valle, non solo fuori valle.
Au début, tout cela n'était pas connu par toute la vallée, et même pas en dehors. Voilà pourquoi nous avons lancé une campagne de contre-information. Nous avons informé les gens des coûts réels de la construction d'une ligne à grande vitesse et des conséquences sur les territoires. Une œuvre de ce type comporterait des risques pour les eaux souterraines. La liaison avec la France compte 53 km en galerie. Le passage par la montagne comporterait la coupure des eaux souterraines qui causerait un appauvrissement des arbres de la vallée et des problèmes dans l'alimentation en eau pour les habitants.
Il rifornimento idrico per le persone. Inoltre, questa valle, come
de plus, le massif de cette vallée, qui intéresse aussi la partie française qui s'appelle Dora Maira, est constitué par un type de rocher riche en amiante.
E poi verso la Francia, proprio lì dove vorrebbero cominciare.
Du côté de la France, là où ils voudraient commencer les tunnels, il y a d'énormes gisements d'uranium.
Per cui portare alla luce.
Amener à la surface quelque chose que la Terre garde bien caché dans ses entrailles aurait un impact sur la santé de la population.
Un impatto non indifferente sulla salute della popolazione.
L'aspect lié à la santé, ainsi que celui concernant les eaux souterraines, a mis en état d'alerte la population.
Al di là della questione del modello, è quello che ha dato immediatamente da pensare, ha messo in allarme la popolazione. Questi sono stati gli elementi che hanno prima di tutto fatto capire.
Ces éléments ont montré comment cette œuvre était inutile et même mauvaise.
Anzi dannosa. Dal punto di vista del servizio sarebbe stata non meno dannosa dal punto di vista della vivibilità e della salute pubblica. Per cui questi elementi hanno sicuramente messo in allarme le persone. Oltretutto noi
d'autant plus che notre vallée est déjà envahie d'infrastructures. Car nous avons deux routes nationales et une autoroute qui a été bâtie et dont les conséquences ont été la pollution et la destruction de quelques aires agricoles, ainsi que le dédommagement des eaux souterraines.
ha tagliato falde acquifere, perché già ci sono delle parti in caverna. Allora, quello che aveva comportato la costruzione dell'autostrada era ben chiara alle persone.
Cela ha empiré le condizioni di vita alla vallée. C'est pourquoi les gens ont de suite compris que ce qui s'est passé avec la construction de l'autoroute n'était rien rapporté à la construction de la grande vitesse et au modèle qui est à la base de la grande vitesse, c'est-à-dire le partage du monde dans des couloirs de trafic.
Del modello stesso che è sotteso all'alta velocità, e cioè è proprio la divisione del mondo in corridoi di traffico, perché anche questa questione non è secondaria, dove tutto
dans d'autres zones d'Italie, où ils ont fait des travaux pour la grande vitesse, cela a entraîné en même temps le renforcement des autoroutes. Ces couloirs de trafic à grande vitesse ont eu un impact fort sur les territoires et ont donné naissance à un modèle de vie inacceptable, car un territoire qui devient un couloir, c'est invivable.
Un territorio che diventa corridoio non è un posto vivibile, no?
Certo. L'esempio, les couloirs des maisons sont des lieux de passage où on ne vit pas. C'est pourquoi un des premiers slogans a été exactement cela. Nous ne voulons pas une maison faite seulement des couloirs, mais faite des chambres confortables, de beaux séjours et des grandes cuisines qui soient vivables.
E soprattutto di cucine capienti e assolutamente vivibili.
A partir de ces éléments, nous avons commencé à organiser des assemblées pour rappeler aux gens la construction de l'autoroute qui était passée sous silence.
Nel silenzio, perché c'era stata una delega totale, era arrivato il momento in cui
on s'est aperçu qu'il n'était pas possible de déléguer notre vie et celle de nos territoires à des intérêts qui n'avaient rien à voir avec ces gens et ces territoires, avec le futur qui appartient à nous tous.
Delegarle ad altri interessi che nulla avevano a che fare con le persone, con i territori, con il futuro che è di tutti.
De plus, il faut bien garder à l'esprit che notre lutte n'a jamais été égoïste. Nous n'avons jamais dit de ne pas vouloir la grande vitesse dans la Val de Susa en proposant de la réaliser ailleurs où il y a plus d'espace. Nous avons toujours dit que ce modèle de transport n'était fait ni pour nous, ni pour d'autres endroits où les gens souhaitent vivre décemment.
Che questo modello di trasporto come non era adatto a noi e non era adatto a nessun luogo dove la gente volesse vivere decentemente e avere anche il diritto all'autodeterminazione della propria vita.
Nous avons été guidés par les principes d'autodétermination contre des choix économiques qui ne considèrent guère les gens pour la sauvegarde d'un patrimoine environnemental, des services, des savoirs transmis par les générations passées et que nous avons envie de transmettre à nos successeurs.
Certo, come ha cambiato, giustamente mi stai parlando delle vostre azioni, il fatto che avete fatto controinformazione.
Comment est-ce que les actions que vous avez menées, la controinformazione, les assemblées que vous avez organisées ont changé les habitants de la vallée?
Assolutamente, perché
nous sommes persuadés que être conscient signifie aussi avoir du pouvoir. Qui connaît peut se défendre et combattre un modèle de vie destructif pour le présent et pour le futur. On organisait donc des assemblées, même en partant du point de vue de la non-délégation. C'est-à-dire le fait de ne pas déléguer à d'autres personnes la gestion et les projets de sa propre vie. C'est pour cela que ça a été important d'avoir pris contact avec chaque personne en faisant comprendre à tous l'importance de cette lutte pour la défense de la simple existence. Car il faut rappeler que si cette œuvre s'achève, non seulement ça aurait un effet dévastateur sur toute l'Italie,
ma sicuramente l'impatto ambientale, l'impatto sulla qualità della vita e sulla salute,
mais aussi sur la vie et la santé des habitants de la Val Susa, à cause des chantiers, de la destruction des espaces de vie, de la présence de matériaux dangereux pour la santé. Et à tout cela, on ajoute les bouleversements de vie normale.
il appunto questo accumulo di materiali assolutamente pericolosi per la salute e lo stravolgimento di quella che sono i canoni minimi di una vita decente. Allora, quando la gente ha capito
quand les gens ont compris quel était le problème et que le moment du début des travaux s'est rapproché, ils ont décidé de s'opposer à tout cela.
Alzata in piedi e ha deciso di opporsi. Senza questa lotta la valle sarebbe sicuramente più povera perché
sans cette lutte, la vallée serait sûrement plus pauvre humainement et culturellement. Car le besoin de se défendre de façon collective a fait naître une nouvelle socialité dans la vallée. Cela a fait sortir les gens de l'enfermement de leur propre existence, les a arrachés de la télé et de la routine du quotidien, en les ramenant dans les rues et dans la lutte réelle.
L'ha riportata in strada, l'ha riportata nei presidi, l'ha riportata nella lotta reale. Per cui anche per questo motivo.
C'est aussi pour cette raison que je crois qu'on va gagner, car nous avons découvert une autre façon de vivre, une autre socialité qui donne une grande force et une grande richesse.
Tanta forza, tanta ricchezza, tanto affetto. Per cui sai, anche le persone anziane.
Tu vois, même les personnes âgées qui sont devant les boucliers et qui ne cèdent pas et qui sont tapées, ils les font pour protéger les jeunes. Et les jeunes les font pour protéger les personnes âgées. Et nous ne reculons pas d'un pas, car cela signifierait laisser seul qui est là, à côté de nous. Et cela n'est pas possible. Il ne s'agit pas que d'une lutte, mais de la vie aussi. Jour après jour, nous vivons avec enthousiasme, car nous sommes convaincus qu'en agissant comme ça, nous sommes en train de défendre non seulement notre futur, mais notre présent aussi. On s'est aperçu que dans ce monde, on peut vivre contre et au-delà de l'indifférence. C'est sûr que dans la Val de Susa, l'indifférence a été battue et l'exigence d'une culture différente est née sur les sentiments des collectivités, sur la beauté et sur l'harmonie. Sur l'harmonie avec les autres êtres vivants, cette harmonie qu'ils sont en train d'essayer de détruire.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez FPP, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie. Ce soir, on parle du mouvement Notav. Et on continue, Daniele.
Oui, parce qu'après cet important et intéressant témoignage de Nicolette, militante de longue date de Notav, qu'on écoutera d'ailleurs à nouveau dans quelques instants, on voulait demander à Lilia, qu'on a avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Lilia, militante du comité Notav Paris, et on voulait demander de parcourir les étapes fondamentales de cette lutte où la confrontation avec la police est parfois même violente. Comme vous verrez, la répression a été constante, mais cela a soudé le mouvement et a fait augmenter le soutien populaire.
Oui, Lilia, tu commences. La longue histoire.
Complètement. Complètement, le soutien populaire, effectivement, ça s'est fait sentir de plus en plus. Et à chaque événement, il y a eu une vraie union de plus en plus forte, en fait. Moi, je dirais que, on a commencé avec en mars 98, quand Sole Baleno et Pellissero, qui étaient trois anarchistes de Turin, ils sont arrêtés avec l'accusation d'association subversive avec des finalités de terrorisme. Ils sont soupçonnés d'avoir fait des sabotages écoterroristes en Val di Susa, de 96 à 98, on va dire. Et Sole Baleno se sont suicidés en prison. Enfin, elle était à la maison aux arrestations domiciliaires. Et Pellissero, il a été accusé, mais pas pour association terroriste. Donc, c'était quand même assez bizarre, on va dire, l'événement. C'est à ce moment-là qu'en fait, à Turin, on a commencé à entendre... Moi, je viens de Turin, donc j'étais là-bas et j'ai commencé dès le début, en fait. Et on a commencé à ce moment-là à entendre parler de Notav, qu'est-ce que ça signifiait. Et à ce moment-là aussi, des groupes de militants de la ville ont commencé à solidariser avec la vallée.
La ville
de
Turin.
Qui est à côté, elle est à
10 km,
60...
disons.
30 km de Souza.
10 km
10 km de but de la vallée, mais après, bon.
Torino, de la vallée de Souza, une soixantaine de kilomètres. Ouais. Effectivement, c'est la capitale de la région, quoi. C'est la ville la plus grande de la région du Piémont, qui a un grand soutien notable, en fait. Un autre moment très important de cette lutte, ça a été pour moi le 8 décembre 2005, le jour de la libération de Venaus, que c'est un petit village où un chantier devait démarrer. Et en fait, suite au démantèlement de la part de la police del Presidio, c'est-à-dire du sit-in permanent, l'Assemblée populaire de Notave a organisé une grande manifestation et un blocage des routes qui a vu la participation de plus de 10 000 personnes qui étaient vraiment déterminées et qui a permis de reprendre le Presidio, même face à des violentes charges policières et indiscriminées, je dirais aussi. Un autre événement majeur de la lutte, ça a été en juillet de l'année dernière, où suite à un violent délogement de la Libre République de la Maddalena, du 27 juin, les comités, ils ont appelé à une manifestation nationale. Et la Maddalena, qui était le dernier chantier qui devait démarrer et qui était devenu le sit-in permanent stratégique occupé pendant plus qu'un mois, ce fut en fait le vrai point de solidarité populaire qui fut créé par le mouvement Notave, où il y avait beaucoup d'initiatives, d'informations, des espaces d'échange, des cuisines communes, des spectacles, des discussions. Et c'était une vraie alternative de vie horizontale qui a été mise en place. Ce jour-là, il y a eu un nombre exorbitant de forces de l'ordre qui ont utilisé des moyens vraiment de répression vraiment extraordinaires, avec beaucoup de lacrymogènes OCS, qui est un gaz interdit en guerre par les conventions internationales, qui fut utilisé par Saddam, par exemple. Il y a eu des lances de pierre de la part des policiers, il y a eu des matraques utilisées à l'envers, et beaucoup d'illégalités, on va dire, et de... Oui, d'irrégularité plutôt, enfin, par rapport aux forces de l'ordre. Des frappes injustifiées.
Que Nicoletta, justement, appelle les forces du désordre.
Des forces du désordre sont appelées comme ça en Valais, parce qu'effectivement, elles font plus que des ordres que de l'ordre. Mais... Et du coup, il y a eu vraiment des chasses à l'homme dans les bois et dans la montagne, dans les villages, dans les maisons même. C'était quand même assez effrayant. Et le peuple notave résiste avec des barricades, avec les propres corps contre les pelleteuses, et contre les charges et les menaces. Et à partir de ce moment, en fait, beaucoup de manifestations ont été organisées dans différentes villes en Italie. Et la solidarité est vraiment arrivée même de l'étranger. Après ça, je dirais que il y a eu un autre moment très important, c'était le 26 janvier de cette année, où malheureusement 40 personnes, des camarades qui ont été actifs dans la lutte, ils ont été arrêtés avec l'accusation de rébellion à agents de la force publique. D'autres, ils ont eu l'interdiction d'accès à la vallée, des arrestations à la maison. Et au niveau politique et médiatique, il y a eu une volonté de donner une image violente au mouvement. Et ce tentatif, c'était vraiment falimentaire parce qu'en toute Italie, il y a eu des vraies manifestations de soutien et une vraie union.
Oui, mais il y a encore des militants en prison,
oui.
Apparemment.
Oui, il y en a beaucoup qui sont... bon, maintenant qu'ils ont les arrestations domiciliaires, je ne sais pas si on dit ça en français... Et il y en a encore 5, il me semble, qui sont en prison, oui. Entre Rome...
C'était des militants de pas que de Laval, en fait, c'est des militants...
Italiens, ouais, en italien. Fait, dans d'autres villes. Et donc, après, effectivement, bon, les conditions, elles étaient assez dures, il y avait quand même une vraie volonté de détruire le mouvement, mais je veux vraiment souligner cette... réponse du mouvement qui s'est uni encore plus à ce moment-là et qui a dit il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bons et on est tous responsables de la résistance. Après, le 27 février 2012, il y a eu un autre moment assez inquiétant et assez fort. Après une grande manifestation de 80 000 personnes en soutien aux militants arrêtés, ils ont commencé en fait les expropriations et l'élargissement du chantier. Le jour de l'élargissement du chantier et de la prise de la Baïta, c'est-à-dire d'un point central en Val Clarea qui avait été créé par les Notaves, un cultivateur Notave, Luca Ba, est monté sur un pylône de haute tension pour protester contre les expropriations des terres. La police l'a suivi, l'a fait monter encore plus haut, et c'est alors que Luca, il a pris une décharge électrique et il est tombé d'une hauteur d'au moins 15 mètres.
Je pense que tout le monde a l'esprit bien les images qu'on a pu voir et qu'on est sur Internet. C'était assez effrayant ce qui s'est passé.
Oui. Oui. En plus, il faut dire que voilà, l'arrivée des secours, elle a été empêchée pendant une heure. Luca, elle a été ramenée après un hélicoptère après une heure de sa chute. Donc même les militants, ils pouvaient pas se rapprocher. Il y avait personne qui pouvait se rapprocher. C'était assez dur. Et heureusement, bon, Luca Ba, il n'est plus en péril de vie. Il est sorti, on va dire, du coma.
Il
est encore hospitalisé, mais ça va beaucoup mieux. Et je dirais que voilà, même dans cette situation, il y a eu en plus beaucoup de déclarations des politiciens qui ont été vraiment assez provocatoires contre le mouvement et contre ses buts. Mais encore une fois, le mouvement a été vraiment en toute Italie, en beaucoup de villes d'Europe, a réagi avec union, détermination, des blocages dans les routes principales, dans les gares, dans les places. Et la lutte continue.
Merci Lilia pour nous avoir décrit un petit peu les étapes fondamentales de la lutte notable en Italie. Et on continue quand même et on écoute la deuxième partie du témoignage de Nicoletta D'Osio, qui est une militante de longue date du Notave, qui continue à nous parler de la lutte.
Certo, tra l'altro una cosa che mi viene da dirti.
En réalité, vous avez porté ce mouvement à un niveau national. Aujourd'hui, vous êtes soutenu partout en Italie.
Insomma, da tutta Italia, non è solo più una cosa.
Sì, assolutamente sì, perché
oui, absolument.
Diciamo che la loro repressione è stato un elemento.
La repressione ha eu come effet la prise de conscience des gens bien ailleurs qu'ici. Ils ont vu notre détermination et nos manifestations, toujours très colorées.
Così colorate e così molteplici, vedere la crescita di un movimento che è realmente un movimento.
Ils ont assisté à la naissance et à l'évolution d'un mouvement qui est un vrai mouvement populaire, fait des gens de tous les âges, autant de femmes che d'hommes.
Ci sono giovani, di donne e uomini, quindi le donne hanno anche un ruolo centrale in questa nostra lotta.
Les femmes ont un rôle fondamental dans notre lutte. Grâce à leur présence constante, elles montrent la gravité du moment que l'on vit et la nécessité de cette lutte. Car les femmes se mobilisent quand la vie elle-même est mise en danger.
Si muovono quando vedono messo in discussione proprio anche la vivibilità minima. Queste donne sono state, direi, le prime ad accogliere
Ces femmes ont été les premières à répondre à l'appel. Dans les sit-ins, les femmes venaient non seulement pour animer les groupes ou pour cuisiner, mais pour vivre ces moments, en étant en première ligne dans les affrontements avec les forces de police, les forces du désordre.
Nei momenti di contrapposizione con quella che era la repressione, con quelle che erano le forze del disordine, e poi animavano i giorni e le notti dei presidi.
Elles animaient ces sit-ins des jours comme des nuits et étaient présentes pendant les moments les plus difficiles. Nous, les femmes, avons pris des coups de matraque comme les autres, voire plus que les autres. Car il est plus simple de frapper une femme, surtout si âgée et qui bouge difficilement. Frapper les plus faibles était pour la répression un avertissement pour tout le monde. Rentrez chez vous car ici, il n'y a d'exception pour personne. Tout le monde sera victime de la répression.
Tutti sono soggetti al manganello e tutti sono soggetti alla repressione.
Secondo te, a ton avis, le mouvement Notave aura gain de cause, réussira?
Ma guarda, noi
écoute, ce n'est pas de la rhétorique, mais nous pensons vraiment che nous ne pouvons pas perdre.
Non possiamo perdere. Allora, la repressione stessa che si è alzata contro di noi.
La repression qui a été montée contre nous a été peut-être aussi la réponse à nos grands moments de succès.
Cioè, in, in raccolta. Diciamo, nonostante questa, ci sono stati i grandi momenti di successo. Pensiamo al 2005, quando dovevo
come en 2005, la con la Galleria dei Servizi a Venaus, avrei dovuto aprire e après des jours et des nuits, des sit-ins d'occupation, les forces de désordre sont arrivées et ont détruit les campements que nous avions construits.
E hanno distrutto le tende del campeggio che avevamo fatto proprio come luogo di presidio, là dove avrebbero dovuto aprire i cantieri. E quella repressione.
Cette répression a été un levier pour que deux jours après, non seulement les gens de la vallée, mais aussi d'ailleurs, retournent dans les lieux occupés par les militaires, et ensemble, nous avons repris le chantier, et la galerie n'a jamais été construite.
La loro occupazione, per cui ci riprendemmo il cantiere, quello che era il cantiere nel 2005, e liberammo il cantiere, e l'opera non partì, perché già allora doveva partire. Allora, questo fatto
cela n'aurait pas pu arriver sans un grand consensus populaire.
Ma diventò anche
et il a été aussi un moment emblématique du fait che si un peuple se soulève et décide de ne plus déléguer le pouvoir, de ne pas céder devant la répression, ce peuple pourra gagner.
Davanti alla repressione, quel popolo può anche vincere.
Nous pensons que la lutte de la Val de Susa, le fait que nous tenions bon, cela donne courage à bien d'autres mouvements. Et la participation des personnes venues d'autres réalités de partout en Italie, venues nous aider dans les moments les plus difficiles, ils nous ont aidés à nous faire connaître ailleurs.
Ma che soprattutto fanno conoscere la nostra lotta anche altrove, ormai è una lotta che è diventata
maintenant cette lutte è divenue internazionale dans le sens qu'elle est connue bien ailleurs et aujourd'hui au moment où la répression se lance contre nous naissent des feux de rébellion ailleurs en Italie.
Fuochi di opposizione anche da tante altre parti d'Italia, per esempio.
Par exemple, le 29 février dernier
febbraio scorso, quando noi avevamo occupato l'autostrada,
quando nous avions occupé une zone à réponse à la destruction du dernier campement que nous avions construit,
il nostro ultimo presidio, e anche in risposta alla repressione che aveva
lui-même construit suite à la répression militaire qui avait causé la chute spectaculaire et l'accident de notre compagnon qui est encore aujourd'hui dans des conditions très graves à l'hôpital. Tout ça nous a poussés à occuper l'autoroute. Contre nous, il y a eu une répression violente, une vraie chasse à l'homme. Il y a eu des arrestations, des coups de matraque, des personnes âgées ont été frappées et amenées à l'hôpital. Nous avons vu des choses qui nous ont rappelé jeunes 2001, où nous étions déjà là avec nos banderoles notables.
La propria debolezza, nonostante
quand le pouvoir se déchaîne et voit sa propre faiblesse, il use d'autant plus d'arrogance et de violence. Mais cette violence portée contre nous a causé une mobilisation générale partout en Italie et ailleurs. Les drapeaux notables ont été portés dans les places. Il y a eu des occupations des autoroutes, de gares. Et cela montre que nous ne sommes pas du tout isolés, non seulement moralement, mais aussi dans l'action concrète de ceux qui décident que cette lutte, qui est la nôtre, est un symbole d'espoir pour beaucoup. J'aurais voulu te demander comment faire pour aider les mouvements, mais finalement, il me semble que c'est le contraire. C'est le mouvement qui aide l'Italie. La manière d'aider les mouvements notables est de faire renaître la mobilisation.
La mobilitazione anche là,
même là où il semble qu'il n'y ait pas d'espoir. Les ouvriers qui luttent pour la défense de l'article 18, les précaires qui luttent pour leur droit à avoir une vie digne, et les personnes âgées qui luttent pour ne pas voir diminuer leur retraite, les jeunes qui voient que l'école publique est démantelée.
Quando poi
Quand on voit que l'argent public est jeté dans les puits sans fond de ces grandes œuvres telles que la TAV, bah, toute cette lutte sont les vraies aides que l'on peut donner à la Val de Susa. Nous sommes convaincus qu'il doit naître et qu'il est en train de naître une nouvelle saison qui amène les gens à décider de leur présent et de leur futur.
A decidere, a cercare di decidere nuovamente del proprio presente, del proprio futuro. Ed è la cosa che fa loro più paura.
E c'è cela che ha fait le plus peur à l'État e che ha fait que la répression a été extrêmement violente récemment.
Negli ultimi tempi che ha portato compagni in carcere.
Il y a eu des camarades de lutte mis en prison, sans le moindre procès. Ils ont mis en prison des personnes emblématiques de la lutte, comme le barbier de Bussoleno ou le conseiller communal de la Val de Susa, pour dire aux autres que même les gens normaux, s'ils décident de résister, peuvent finir mal. Ils ont pris nos camarades qui se sont les plus distingués dans la lutte, comme Giorgio et plein d'autres.
Per mettere in piedi questa lotta e li tiene in carcere duro, come succede a Giorgio, come succede a tanti altri. Allora, questa repressione in realtà.
Cette répression violente est en réalité le signe de la faiblesse de ce que nous appelons le parti transversal des affaires, car ils voient leurs intérêts mis en danger par le peuple.
Ineluttabili in realtà sono messi in discussione. Quindi.
Donc, l'augmentation de la répression n'est pas le signe qu'ils sont plus forts que jamais, mais au contraire, elle est le signe de leur insécurité et de leur faiblesse. Il peut paraître absurde, mais nous, avec notre présence, nous, avec nos mains nues, avec notre présence d'hommes et des femmes de tous les âges, avec notre détermination, c'est nous qui avons les vraies forces. Et c'est bien ça qui nous fait croire que nous vaincrons.
Non tanto perché sia nell'ordine ineluttabile delle cose.
Non pas parce que c'est ineluttable, mais parce que les raisons sont toutes de notre côté et la conscience collective les a comprises et faites propres. Et eux, ils s'attaquent non seulement aux personnes, mais aussi ils s'attaquent à la nature. Par exemple, dans la zone où nous avions mis en place la République libre de la Maddalena, où nous avions construit notre premier fortin en pierre.
Dove avevamo costruito il nostro presidio in pietra e dove i ragazzi e le ragazze avevano cominciato, avevano ripreso la cura dei castagneti che ci sono nella zona.
Nous avions acheté collectivement les terrains qui maintenant sont contrôlés par les militaires, avec un coût énorme pour la collectivité.
Il controllo poliziesco di centinaia e centinaia e centinaia di armati che tra l'altro già sono costati. Anche economicamente un costo enorme alla collettività.
Un peu de mois, depuis juin dernier, a eu lieu la militarisation de ce territoire.
Dal 27 di giugno dell'anno scorso adesso, per la militarizzazione del territorio, che è quella che ha comportato l'occupazione di una zona, tra l'altro.
Ils ont occupé une zone naturelle magnifique et historique, où il y avait un musée très beau qui aujourd'hui est devenu une caserne. Tout cela a coûté à la collectivité 24 millions d'euros.
24 millions d'euros.
Allucinante.
Allucinante.
Combien de choses on aurait pu faire avec cet argent? Tout cela laisse un signe fort sur les consciences de la population. C'est une question de prise de conscience et d'envie de se reprendre.
Di voglia comunque di difendersi. Per cui sembriamo deboli, ma continuiamo a dirlo noi. Abbiamo il coraggio del petirosso, di quegli uccellini che continuano.
Nous sommes faibles, mais nous avons le courage du rouge-gorge, ce petit oiseau qui vole par-dessus les grillages des barbelés. Pendant tout l'hiver, nous avons lutté et chanté, contre le froid et les armes. Il faut du courage et nous l'avons.
Bien, retrouvez alors sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous continuez d'écouter Envie d'Italie, magazine radio d'actualité politique, sociale et culturelle. Donc l'émission de ce soir est consacrée au mouvement italien Notav. Et avant de continuer l'émission en parlant un petit peu de la situation en France, juste une petite pause en musique avec la chanson « Non toccare la mia terra »,« Ne touche pas à ma terre » du groupe Egin. C'est une chanson qui est devenue désormais l'hymne du mouvement Notav italien. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Paris et si vous aimez, vous aurez l'occasion de les écouter demain soir à un événement qui a été organisé par le comité Notav Paris, n'est-ce pas, Lilia? Tu nous donnes quelques informations comme ça.
On va les donner à la fin, mais déjà on peut dire que ça se passe au
demain soir, ça se passera au condensateur à Montreuil, au métro Croix de Chabot, 48 rue de Stalingrad.
Ok, ben on va redonner les infos plus tard.
Bon, déjà on va écouter la chanson.
Un altro povero Cristo era bello colorato con la faccia da bambino, la pelle era scura e azzurro il suo viso, parlava ciapaneco e tutti lo capivano, ma c'era paura tanti e infatti fu tradito. Cartelloni televisivi,
non toccate la mia terra,
treni non ci canti,
non toccate la mia terra,
manifesti pomatati,
non toccate la mia terra,
disonesti organizzati. Scritta, c'era un uomo con il viso sotto un passamontagna, un concetto molto chiaro come insumisio a in pianura in una valle sopra una bicicletta. Sono stufo e dispettito della gente che sorride, che mi parla e mi dice cosa fare della vita. Una bavera impoverita di rispetto e tolleranza, la lingua non bastava, vince solo l'arroganza. Cartelloni televisivi, treni luccicanti,
pomatati,
Bonsoir à tous et à toutes. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur le 106.3. Alors, on continue, Daniel, et maintenant, on va parler un petit peu de la France.
Oui, parce qu'en fait, en France, la question, en fait, on est en train de parler, je vous rappelle, on est en train de parler de la ligne grande vitesse Lyon-Turin. Et en France, la question est restée longtemps à l'écart du débat. La France, en fait, dispose d'un réseau TGV depuis 1981, et les trains grande vitesse est un moyen de transport qui fait partie de la vie normale des voyageurs français, et c'est pour cette raison qu'il est si difficile de lancer un discours critique contre une technologie gourmande d'électricité, et électricité liée à la production nucléaire, et gourmande des territoires et argent public aussi. Et il faut dire que durant les dernières années, une conscience critique est en train de se développer, même ici en France, notamment face aux grands chantiers qui vont détourner des fonds qui pouvaient servir à renouveler le réseau ferroviaire normal, par exemple, et qui risquent d'avoir un impact trop lourd sur l'environnement. Rappelons-nous la question du gaz de schiste et aussi la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à côté de Nantes. Et donc, du département du Rhône à celui de la Savoie, en passant par le Nord-Isère, les tracés de 140 km du projet ferroviaire Lyon-Turin traversent 71 communes françaises qui ont été concernées par l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique close le 19 mars dernier, et dont on entend l'avis.
Oui, en fait, les populations savoyardes ont donc du souci à se faire. La Combe de Savoie va devenir le débouché d'une ligne grande vitesse qui n'aura d'autre avantage que de permettre un gain de 22 minutes sur le trajet Chambéry-Paris, mais dont les conséquences environnementales vont être très lourdes. Alors, jusqu'il y a quelques mois, le projet ferroviaire Lyon-Turin a été perçu comme une affaire italienne, sans implication en France. Mais les choses sont en train de changer. Le 9 juin se tiendra à Chambéry un rassemblement d'information avec toutes les organisations qui luttent contre la mise en place de cette nouvelle ligne ferroviaire. Nous avons posé quelques questions sur la situation française à Régis Moulard, membre du comité Notav Savoie. On l'écoute.
Est-ce que les travaux ont commencé du côté français, comme en Italie en fait?
Oui, bien sûr, puisque France, on va dire que ça fait déjà de nombreuses années qu'un certain nombre de descendries, ce sont des petits tunnels qui sont censés s'approcher du lieu où sera creusé le tunnel de base pour voir justement l'état des roches, la faisabilité. Donc ça fait plusieurs années et on a déjà des retours qui sont assez catastrophiques dans des petits villages où les tunnels ont été creusés. On a pu constater qu'un certain nombre de maisons ont été ébranlées, qu'un certain nombre de sources, notamment à Villarodin, vers Modane, c'est-à-dire presque à la limite de la frontière, si vous voulez. Là, il y a déjà eu un certain nombre de gens qui se sont réveillés, qui apportent leur opposition. Et je crois que ça va continuer. Par exemple, dernièrement, nous avons organisé, en tant que Notav Savoie, nous avons organisé une réunion publique dans la Chartreuse. Et dans cette Chartreuse, nous avons rencontré des habitants, des gens du coin, qui n'avaient jamais eu un discours précis et concret sur la teneur des travaux, sur l'ampleur des travaux, sur les conséquences de ces travaux. Et ça, c'est extrêmement important. Nous faisons le constat en Savoie que nous allons avoir entre Lyon et Turin, il y aura 150 km de tunnel. C'est énorme, 150 km de tunnel. Ça provoque, bien sûr, de l'extraction de roches. Et on a calculé que cet ensemble de roches, ça pouvait correspondre à une quantité énorme, 50 millions de mètres cubes de matériaux qu'il faudra déblayer, qu'il faudra stocker, éventuellement réutiliser. Et ça, ce n'est pas rien, puisque vous allez avoir des dépôts qui vont se traduire très concrètement à l'entrée des villages, à la sortie. Voilà déjà un premier impact. Et puis, il faut savoir également qu'on aura beaucoup, un nombre d'ouvrages d'art qui seront assez conséquents. Des ouvrages d'art, des ponts, bien sûr, des viaducs qui vont parfois enjamber des villages. Donc ça veut dire que les populations sont plutôt inquiètes par rapport à ceci. D'autre part, pour pouvoir faire passer cette ligne, il va falloir passer parfois dans des territoires qui sont naturels, qui sont protégés ou bien qui sont agricoles. Et naturellement, pour permettre le passage de ce chantier, il a fallu que les communes qui sont concernées dérogent aux habitudes concernant le respect des zones naturelles et agricoles pour permettre le passage du chantier. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des incidences à la fois sur l'écologie et à la fois sur l'activité économique, notamment des agriculteurs.
Et est-ce qu'il y a eu des expropriations, en fait, comme en Italie, par exemple?
On va dire que là, pour l'instant, l'enquête publique préalable, parce que c'est l'avant-projet sommaire qui était soumis. Donc cette enquête publique, pour l'instant, n'a pas donné encore de résultats, c'est-à-dire que les résultats, on ne les connaît pas. Ça sera à la suite, s'il y a une déclaration d'utilité publique, qu'il y aura effectivement, le processus va s'enclencher, où il y aura, bien sûr, pour les personnes ou les communes qui sont concernées, un certain nombre d'emprises qui seront consacrées à ce chantier et par conséquent, le cas échéant, bien sûr, nécessiter des expulsions.
À qui sert cette ligne? Quels sont les intérêts qu'il y a derrière?
Bon, de toute façon, il est bien évident que les grands donneurs d'ordre qui veulent équiper, aménager tout ce territoire par cette ligne, ce sont aussi des gens qui sont sous influence de lobby naturellement des transporteurs, mais aussi des travaux publics, du BTP, etc., qui sont, par exemple, les entreprises comme Vinci, comme Alstom, Bombardier, qui sont intéressés pour les trains, mais aussi toutes les entreprises de tunnels. Enfin, voilà, Cogifer, par exemple, ce sont des entreprises qui sont regroupées au sein de la Fédération des transporteurs et qui font leur travail de lobbying, bien évidemment. Donc on se dit, de ce point de vue, ils attendent que le chantier soit déclaré d'utilité publique pour se placer en première ligne pour obtenir des parts de marché.
En 2006, vous avez essayé de lancer la lutte notable du comté français pour provoquer le débat et la réaction des Savoyards. Et pour le faire, vous avez d'ailleurs demandé l'aide des notables italiens. Mais en fait, la réaction n'est pas venue. Pourquoi ?
Elle n'est pas venue parce que, d'une part, les élus qui pourraient être opposés à un genre de grand chantier comme ça étaient convaincus, et notamment, je pense, au vert, étaient convaincus qu'apporter une ligne fret nouvelle, en même temps qu'une ligne TGV, une ligne voyageur nouvelle, allait répondre, finalement, au problème de la résorption du trafic routier sur le transit entre Chambéry et Turin. Et je crois que nous avions également aussi, à l'époque, un ministre, Louis Besson, ministre des Transports, qui s'est fortement préoccupé de ce dossier et qui était très influent et qui a montré ou laissé penser, en tous les cas, que ce Lyon-Turin allait répondre aux problèmes posés par les camions. Or, il s'avère, quand on regarde un petit peu les choses, il s'avère que c'est pas du tout ce qui risque de se passer. Et c'est pourquoi, au moment de l'enquête publique qui a été lancée, donc en début d'année, en janvier 2012, donc il y a quelques mois, cette enquête publique qui portait sur la ligne nouvelle entre Lyon et Chambéry d'une part, et sur donc voyageurs, et puis sur une ligne nouvelle, mixte, qui irait de Lyon jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est le début du tunnel de base qui est prévu entre la France et l'Italie pour rejoindre Turin. Donc cette enquête publique, elle a occasionné finalement du débat parmi les associations, parmi les citoyens, parmi les organisations politiques aussi, où on a vu des associations qui étaient un peu en sommeil se réveiller, se remettre à réfléchir sur la question. Et nous avons, on va dire que nous, notables Savoie, nous avions créé notre groupe en septembre. On avait provoqué déjà des débats, mais en même temps aussi diffusé de l'information. Et on a pu catalyser un petit peu toutes ces résistances, toutes ces oppositions. Et nous avons maintenant, aujourd'hui, en mai, nous avons une coordination, on va dire, régionale, puisqu'il y a des groupes qui sont aussi bien implantés à Lyon que dans la que du côté de Grenoble, bien sûr dans le bassin chambérien, et tout au long du parcours, il y a un certain nombre de groupes de résistance qui sont là.
Et quels sont
et nous envisageons, bien sûr, suite à cette enquête publique, dont nous ne connaissons pas encore les résultats, amplifier, en tous les cas montrer que nous n'avons pas arrêté le combat, et que ce combat nous paraît absolument indispensable et juste.
En tout cas, maintenant et aussi dans le futur, quelles sont les actions qui vous allez mener, en fait ?
Alors, nous allons très prochainement organiser un rassemblement à Chambéry, un rassemblement d'opposition, à la fois où il y aura, bien sûr, des prises de parole, mais aussi une information encore plus intensive auprès des populations qui ont tendance quand même un petit peu à oublier. C'est-à-dire que l'enquête publique est passée, les préoccupations des citoyens sont encore ailleurs, donc nous faisons, et à ce moment-là, nous allons faire une opération un peu d'envergure, on espère, de manière à mobiliser l'ensemble des citoyens concernés par ce projet du Lyon-Turin, fret et voyageurs.
Alors, on est toujours à l'écoute des fréquences Paris Pluriel 106.3 FM et vous écoutez Envie d'Italie avec une émission ce soir consacrée au mouvement italien Notav.
Et on les a ici avec nous en direct et on a entendu tout à l'heure Nicoletta D'Osio parler de leur lutte pendant cet hiver. Elle a dit qu'ils ont chanté et lutté, donc on avait un petit peu envie d'entendre leur énergie ici à Paris dans le studio de FPP.
Sul ponte del Seghino non passa Celerino, la nostra occupata l'abbiamo liberata, la Valsusa paura non ne ha, la Valsusa paura non ne ha.
A Taratina! Ah, c'était un plaisir.
C'était un plaisir de vous entendre.
Ils sont que cinq, hein, il faut le dire, ouais, parce qu'on aurait dit beaucoup plus que ça.
On commence à comprendre comment ça fonctionne, l'énergie du mouvement Notav. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître la traduction de la chanson, vous devez aller voir le mouvement Notav directement en Val de Suse. Ils vont vous accueillir, ils vont vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on commence un petit peu la soirée. Là, on va parler un petit peu en italien. Ça fait plaisir. Je sais que les Français aiment beaucoup la langue italienne, donc on va parler en italien et on va traduire après, oui, pour les gens qui comprennent pas. Donc moi j'avais envie de commencer cette partie de l'émission en vous demandant, en fait, après 20 ans de lutte Notav de la Val di Susa en Piémont, comment les administrations communales de la vallée se sont positionnées par rapport au mouvement Notav?
Oui, je m'excuse pour mon français qui est...
Alors, tu parles en français, ok,
oui,
on ne fait
j'essaie.
Pas la traduction. Okay.
Il faut dire une chose, l'administration régionale et la province de Turin sont pas seulement favorables au TGV, mm-hmm, mais on peut dire qu'ils sont des promoteurs. Pour réduire la résistance de la Val Susa, ils ont lié trois communautés montaines. La partie de Val Susa où il y a la lutte qui est intéressée au projet, ils l'ont lié à une autre vallée latérale qui s'appelle Val Sangone, où ils s'en foutent de la question parce qu'ils ne sont pas intéressés, et même la partie haute de la vallée de Susa qui n'est pas intéressée du projet. On avait une communauté avec 30-32 mairies. Et ils l'ont fait devenir de 43, mm-hmm, à peu près, pour diluire.
Ouais.
Oui. Mais quand on a fait l'élection du président de la communauté montaine, il y a eu 27 communautés communes qui ont dit non au TAB, c'est-à-dire la majorité.
C'est 27 sur 41, en fait.
Oui, ça. Et ça, c'est pour dire comme les administrations sont...
Donc, 27 soutiennent le mouvement,
oui,
en fait.
Oui, une autre chose qu'on peut dire, il y a eu les élections administratives il y a à peu près un mois, et dans le pays le plus grand de la vallée, qui s'appelle Avigliana, le gouvernement, les partis, tout, ils ont fait un accord pour nous contraster. Et ils ont fait une liste entre le PD, le PDL, c'est-à-dire le parti de Bersani, le parti de Berlusconi.
C'est-à-dire la gauche.
La gauche, c'est-à-dire tous les gouvernements.
Et Berlusconi,
tous les partis du gouvernement.
Droite et gauche, en fait.
Ils ont fait, oui. Gauche, oui.
on est bien d'accord.
Ils ont fait une liste pour gagner la mairie de, et contre la liste Notav qui
c'était
était là.
C'était une liste donc civique.
La liste Notav a vaincu. Donc, être explicatif plus, de la situation ça, pour ce qui regarde la...
Et donc ça montre aussi qu'en fait, tous les partis en Italie sont pour la TAV, en fait.
Sont pour la TAV, oui, presque tout, parce qu'ils ont des intérêts, pas seulement
parce qu'en fait, il y a
du projet,
plein
mais ils doivent donner des reconnaissances à certains lobbies. Qui
vont
payé,
gagner beaucoup
qui
d'argent.
Oui, et qui ont payé la publicité pour les campagnes électorales, mais à partir de plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y a une intersection d'intérêts qui est très dangereuse.
D'ailleurs, si on va voir les entreprises qui sont intéressées par le projet, il y a des entreprises qui sont
il y a
des personnages politiques de la droite et de la gauche.
Oui, il y a des entreprises comme la CMC qui doit faire le tunnel exploratif, par exemple, qui est lié aux coopératives rosses, c'est-à-dire sont liées au Parti démocratique.
Ouais.
Oui, et il y a des entreprises qui sont liées au Parti
de la droite.
Oui. Oui, pour exemple, le projet de la... Une des entreprises qui a été intéressée pour le projet du tunnel, c'était l'entreprise de Lunardi, qui était le ministre des Travaux publics avec le...
Comme par hasard.
Avec Berlusconi, oui. C'est... Alors, ils sont tous intéressés
à la TAV
pour... c'est pas pour une idée... Mais c'est pour des intérêts bien
précis.
Bien sûr,
voilà. Oui, oui. Et donc, alors, qui soutient le mouvement TAV en Italie?
Comme...
Pas les partis.
Ah, comme les partis. Il y a quelquefois des déclarations de quelques-uns.
Mais c'est surtout les gens, en fait, qui le soutiennent.
Les individus.
Bah, maintenant, par exemple, il y a même des déclarations, et pas seulement des déclarations, d'une partie du monde politique, si on peut dire comme ça, comme le syndicat des métallurgistes, voilà. Et il n'y a pas longtemps que le secrétaire de la FIOM, qui est le syndicat des métallurgistes, ont déclaré qu'en Italie, c'est prioritaire de mettre en sécurité les fabriques, les usines.
Les entreprises, les usines.
Les entreprises, les usines, parce que dans le... Comment on appelle le
terremoto? Dans le tremblement de terre.
Dans le tremblement de terre, on a eu plusieurs morts d'ouvriers qui travaillaient dans les usines. Et alors, pour exemple, il a dit officiellement à la télévision... À la place, il faut mettre en sécurité les usines. Il a dit directement, à la place de faire la TGV Turin-Lyon, il faut utiliser cet argent pour mettre en sécurité. Alors les usines. C'est déjà une petite partie d'un monde qui n'est pas seulement des antagonistes, mais c'est le syndicat le plus important qu'on a en Italie, et il dit... il faut utiliser cet argent pour des autres choses plus importantes pour les Italiens, pour la vie, pour le pays.
Et est-ce qu'on peut peut-être vous demander de nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passera dans la Val di Susa cet été, quel est un peu le futur? Donc, tu vas nous raconter un petit peu, Martina?
Martina. Okay. Donc, io parlerò in italiano, scusatemi. Allora, innanzitutto sarà importante mantenere la comunicazione sul territorio nazionale ed europeo, soprattutto per continuare a promuovere comunque le lotte territoriali di chi ci ha sostenuto durante questi tempi.
Ok, dunque se sarà importante di garder vive la tensione au niveau européen per donner des informations a chi nous a suivi jusqu'à maintenant.
Dopodiché si rilancerà il movimento e la lotta.
Questo, donc après on va relancer le mouvement et la lutte.
Questo si farà principalmente si sta già facendo con delle campagne di pressione e di iniziativa contro chi compone e continua a controllare questo meccanismo.
Donc on va organiser des campagnes d'information contre justement ceux qui contrôlent ce mécanisme, donc pour garder vive l'attention.
Quindi sostanzialmente ci sono in piedi tre campagne che sono contro le truppe di occupazione che da un anno e mezzo a questa parte sono nella nostra valle.
Donc alors
donc il y a trois campagnes qui sont envisagées, donc la première contre les troupes d'occupation qui sont maintenant dans la vallée.
La seconda campagna sarà contro l'apparato politico che legittima ed ordina la distruzione della nostra valle.
Donc la deuxième campagne sarà contro tous les politiciens qui donnent légitimité à ce qui est en train de se passer dans notre vallée.
Che sono principalmente il Partito Democratico e la Lega Nord.
Donc en particulier les partis démocratiques et la Lega Nord. Ça fait un peu bizarre de les entendre ensemble, mais bon, ça devrait pas aller ensemble les deux, mais bon.
La terza fondamentale campagna è quella contro le ditte dell'alta velocità.
Et la troisième campagne, donc c'est contre les entreprises qui travaillent sur la grande vitesse.
Che sono la CMC, l'ETF e poi tante ditte locali che stanno svendendo la nostra valle per questo tipo di lavoro poco etico, diciamo.
Donc qui sont notamment CMC, LTF et des entreprises locaux qui sont en train de vendre notre vallée.
Sulla campagna delle ditte ci sono due forme, insomma, che stiamo portando avanti. Una è una campagna per adesso teorica, in quanto le ditte in realtà come CMC e l'ETF non hanno ancora cominciato i lavori nel cantiere.
Donc en ce qui concerne justement cette troisième campagne, donc il y a deux formes de campagnes stratégiques. Donc la première c'est contre le CMC et LTF qui n'ont pas sont des entreprises qui n'ont pas encore commencé les travaux.
Et c'est une campagne théorique ça tu dis?
Sì. L'abbiamo chiamata c'è lavoro e lavoro. In quanto, insomma, la valle promuove un tipo di lavoro che fa bene alla vita della valle e alle persone della valle.
Donc justement, elle disait qu'ils ont appelé cette campagne il y a un travail, enfin, il y a du travail, donc il y a travail et travail, voilà. Et en fait, la vallée, elle propose un type de travail qui est...
Qui crée de la valeur, en fait, qui crée de la valeur dans la vallée.
E promuove così l'economia locale, cercando di seguire un modello di decrescita, insomma.
Oui, donc ça promue une économie locale qui vise
la décroissance.
Un altro tipo di lavoro, sempre per quanto riguarda le campagne sulle ditte, è un lavoro d'inchiesta che il movimento sta portando avanti.
Alors, en fait, la deuxième partie de la campagne.
Donc c'est toujours qui concerne les entreprises, c'est une enquête... Sulle
infiltrazioni mafiose all'interno delle ditte che lavorano nel cantiere.
Sulla presenza della mafia nelle entreprise che lavorano in questi cantieri.
Dopodiché la roba fondamentale per il movimento è tornare in Clarea, quindi avvicinarsi di nuovo al cantiere, a tutto quello che è l'apparato del cantiere.
Donc la troisième partie de la campagne contre les entreprises est celui de revenir en Clarea.
C'est-à-dire à côté, c'était la partie que la vallée, voilà.
E questo lo si farà a breve con il campeggio Notav.
Ils vont le faire très vite avec le camping Notav.
Sì, che comincerà il 15 di giugno.
Donc à partir du 15 juin.
E dal 15 al 20 ci sarà un campeggio, il primo campeggio nazionale dei giovani Notav.
Donc du 15 au 20 juin il y aura le premier camping national de jeunes Notav.
E dal 20 in avanti fino a settembre-ottobre ci sarà invece il campeggio, insomma, di tutto il movimento.
Okay, donc du 20 juin jusqu'au mois de septembre-octobre il y aura un camping qui concerne tout le mouvement, donc pas que les jeunes.
E questo campeggio ovviamente non è un campeggio fine a se stesso e quant'altro, ma è un campeggio di lotta. E
donc il s'agit d'un camping de lutte, c'est pas un camping juste pour s'amuser, voilà.
E difatti proprio in questi mesi, come ho già detto, ci si riavvicinerà alle reti, si assedieranno di nuovo le reti.
Donc pendant ces mois, on s'est rapproché à nouveau
au grillage
du chantier, des chantiers
per cercare di mettere in difficoltà comunque tutto l'apparato politico, militare che ci sta intorno. Ecco.
Donc, pour créer un peu de mouvement autour de ces chantiers et réveiller peut-être aussi un petit peu les esprits. Non, je regarde.
Il n'y a pas besoin de réveiller les esprits, ils sont très réveillés. Aller déranger tous les militaires qui sont là au chantier.
E invece più a lungo termine non ci sono grandi prospettive, ma nel senso che il prossimo anno ci saranno le elezioni.
Donc l'année prochaine il y aura les élections.
Questo insomma potrebbe cambiare gli scenari in valle come nel resto d'Italia, quindi siamo aperti a mille prospettive.
Donc cela pourrait changer donc les équilibres dans la vallée et on est ouvert à toutes les perspectives.
Même pour l'Italie en fait, globalement.
Sì. E niente, quindi l'unica roba certa che insomma abbiamo, indipendentemente dal governo tecnico che abbiamo ora o il governo insomma che si andrà a creare politico.
Donc indépendamment du gouvernement technique qui a maintenant ou du gouvernement qui va se créer, la seule chose qui est certaine
è che continueremo a lottare, a resistere fino a vincere insomma la lotta.
C'est qu'on continuera a lutter, a résister jusqu'à gagner la lutte.
E vinceremo.
Et vous allez gagner, oui, on l'a déjà dit et on est sûr que vous allez gagner. Comme disait Nicoletta, vous avez déjà gagné en fait. Ça fait 20 ans que vous êtes là, donc c'est
fait,
sûr.
On fait peut-être aussi un petit tour, juste pour dire les oui. noms donc, de nos amis qui sont là.
Moi je voulais juste le dernier mot de l'émission, en fait, vous l'avez dit, on va gagner. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aux amis français qui nous écoutent en fait?
De venir au camping Notave et de venir nous rejoindre à partir du 15 juin ou à partir du mois de juillet et de venir connaître la lutte. Et évidemment, pour commencer à connaître la lutte, de venir demain, mardi 5 juin, au Condensateur, qui est à Montreuil, donc c'est métro Croix de Chavaux sur la 5. À partir de 18h30, on aura un débat avec les personnes qui étaient ici présentes en radio. Il y aura un dîner italien et surtout, il y aura un concert à 21h30 avec les Egin, qui sont un groupe qui nous viennent directement de Turin.
Et on va écouter d'ailleurs la dernière chanson tout à l'heure, à la fin de l'émission. Et vous pouvez aussi écouter les Egin après, si vous les ratez demain soir, en fait.
On les aura mercredi 6 juin à 19h30 au bar Les Cascades, au 82 rue des Cascades dans le 20e, métro Pyrénées ou métro Ménilmontant. Et jeudi 7 juin à 19h30, en version toujours acoustique, au bar Le 96, au 96 boulevard de Charonne, Paris 20e, métro Alexandre Dumas.
L'entrée est libre, mais en fait, on a besoin de vous pour soutenir le mouvement. Donc venez apporter votre présence, mais aussi un petit peu d'argent, parce qu'on en a besoin, je pense.
Amis, chats, chiens,
tout le monde en fait.
Est-ce que vous voulez peut-être rappeler un site internet oui. où tous nos amis peuvent se renseigner sur les démarches du mouvement Notave en Italie?
Sinon, je ne sais pas si vous ne le savez pas. De toute façon, les liens vont être sur notre site. En tout cas, vous avez créé un site internet pour les Notaves Paris. Il y a des pages Facebook, donc profitez et allez. Les liens vont être sur le site, donc il n'y aura pas de
Il y a une
soucis.
Page Facebook et il y a un site web pour le comité Notave Paris qui est notaveparis.noblog.
Avec Google, c'est très facile, on le trouve super facile.
On mettra tous les coordonnées sur notre site internet.
Et donc, l'émission touche à sa fin. On remercie vraiment. Alors, je vais les nommer tous parce que c'est important. Alors, je vais remercier Guido Fissore, Martina Casel, si c'è così, sì, Martina Casel, Virginia Santilli, Gianpaolo Carena di Paolone, qui est là derrière, qui l'a chanté, on l'a entendu tout à l'heure. Après, je voulais quand même remercier mes coéquipiers, donc Irene Pancaldi, Daniela Lanzuisi, qui est derrière à la technique, Daniele Franco, qui était en studio avec nous, et Lilia Aruga, du comité Notave Paris, pour toute l'aide et le soutien pendant le mois de préparation. Je voulais remercier aussi Régis Moulard des Notaves Savoie, et aussi, bien sûr, je veux remercier FPP, qui est la radio qui nous permet d'être là.
Nicoletta Dosi aussi.
Aussi, j'avais oublié le plus important. Et Nicoletta aussi, qui nous a raconté un petit peu l'histoire des sous-mouvements. Si vous avez raté l'émission et que vous commencez à entendre maintenant, vous pouvez la réécouter jeudi à partir des 8h. Et sinon, vous pouvez toujours trouver nos émissions
sur notre blog.
Voilà.
Donc,
www.envieditalie.wordpress.com.
Et si vous voulez nous écrire pour nous demander des choses, des contacts, etc., n'hésitez pas. Alors, l'adresse est envieditalie.fppradio@gmail.com.
Et ou sinon, notre page Facebook. Voilà. Donc, vous tapez Envie d'Italie et vous trouverez toutes les informations sur l'émission, sur nos prochaines émissions aussi. Voilà. Parce que, bon, cette émission est en train de terminer, mais là, on est en train de préparer une super émission pour les mois prochains.
Avant les vacances. Voilà. Exact. Alors, on termine l'émission avec une autre petite chanson du groupe musical Egin, Marche mon ami, qui est un chant de résistance. Et comme je disais, les Egin, vous pouvez les écouter toute cette semaine sur Paris. Bonne soirée à tous et encore merci à tout le monde.
Merci Véronica. Au revoir. Véronica,
ciao.
Merci à toi.
Au revoir.
Marche mon ami, marche sur notre temps sans réagir. J'ai besoin de chaussures pour marcher très vite, cher mon amour. J'ai avec moi un microphone pour chanter une petite révolution. Marche sans surveillance, tu vas rire, ce n'est pas une danse. T'as plus le temps pour parler, pas de toi, y a la guerre. Nous avons les rêves de vivre, marchons pour être libre. Overdose d'étalé dans la tête de les personnes. Réagir, il est normal, vos galères sont pas importantes. Comédien, tu es perdu, nous allons abarrer la rue. Il y a trop de familles, tu n'as plus le temps pour les amis. Plus le temps pour parler, pas de droit, y a la guerre. Nous avons le rêve de vivre, marchons pour être libres. Marche, marche, mon ami, marche, sinon tu tombes sans réagir. Marche, on s'arrête pas, liberté pour tout le pays basque. A besoin des milices pour frapper les yeux de la justice. Toi qui parles de liberté, faut rester toujours motivé.
En français,
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di vederle cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura, felici correvamo in via usciate, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venire.